Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8. 16h30, 17h.
Luc Chemla.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30. C'est un plaisir de vous retrouver sur Radio Campus Grenoble pour cette deuxième émission de Microcité. Au sommaire aujourd'hui, la PMA, la procréation médicalement assistée, c'est le thème de notre débat. Son extension aux femmes célibataires et couples lesbiens était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Alors pour ou contre son ouverture, Aurélia, Valarié et Léo Corcos poseront la question à nos invités. Notre grand format vous présentera une machine unique en son genre. Elle vous propose des vêtements adaptés à votre morphologie. Une start-up grenobloise l'expose depuis 2 semaines au centre commercial Grand Place. Reportage à retrouver en fin d'émission. Merci de nous écouter sur le 90.8 FM ou sur campusgrenoble.org. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter et à réagir avec le hashtag Microcité. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h. Microcité, c'est parti. Et comme chaque semaine, on commence avec les infos, le journal présenté par Alexandre Lepère.
Dans ce journal, retour sur la semaine d'Emmanuel Macron, une actualité partagée entre le sommet de la francophonie en Arménie et un remaniement ministériel qui se fait toujours attendre. Au sommaire également, c'est déjà le début des vaccins contre la grippe, il peut se faire désormais en pharmacie. On vous explique tout dans ce journal. Les cabines de bronzage peut-être bientôt à l'ombre. L'agence de sécurité sanitaire a demandé leur fermeture face au risque de cancer. La réaction d'un salon de bronzage avec Julien Penaud dans un instant. Et en fin d'édition, on passe à table avec la SNCF et l'opération Chef de Gare. Luc Chemla, Simida, Les Fourneaux avec le vainqueur de Top Chef.
Microcité.
Sans surprise, la Rwandaise Louise Mushikiwabo a été élue ce midi à la tête de la francophonie lors du sommet du même nom, organisé en Arménie. Elle était soutenue par la France et Emmanuel Macron. Le président de la République qui revient à Paris ce soir, il se penchera de nouveau sur la question du remaniement, attendu depuis plus d'une semaine. Pour l'instant, 5 ministères seraient concernés par ce remaniement, dont celui de l'Intérieur, toujours occupé par le Premier ministre Édouard Philippe.
La période de vaccination contre la grippe a commencé la semaine dernière.
Cette année, il sera possible de se faire vacciner en pharmacie dans 4 régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes, qui avait déjà testé le dispositif l'hiver dernier. L'occasion de faire un premier bilan, Xavier Ponroy s'est rendu dans une pharmacie à Échirolle, près de Grenoble.
Ça fait 20 ans même plus qu'on est, que je connais la pharmacie alors.
La confiance, elle est totale.
Ah oui, confiance totale.
À l'image de ce patient, se faire vacciner par un pharmacien est désormais un geste évident. Martine Garcia, pharmacienne à Échirolles, explique cet attrait pour une raison bien précise.
On nous a fait remarquer le côté pratique, c'est-à-dire que les gens rentrent, prennent le vaccin et puis ils disent « vous pouvez me vacciner ». Donc c'est tout fait. En même temps.
Pourtant, pour cette pharmacienne proche de la retraite, l'an passé, il avait été compliqué de franchir le pas et de vacciner ses patients.
J'avais jamais vacciné avant, donc l'an dernier, c'était nous qui avions moins confiance. Savoir si on n'allait pas faire mal, comment ça allait être pris par notre clientèle. On a quand même de l'appréhension face à un humain.
L'an passé, en Auvergne-Rhône-Alpes, plus de 100 000 personnes se sont rendues chez leur pharmacien pour se faire vacciner, soit 4 fois plus que les objectifs fixés. Dans la pharmacie où travaille Damien Boussicot à Échirolles, près de 400 vaccins ont été réalisés.
On n'attendait pas autant de monde, mais c'est pour ça qu'aussi là, cette année on est plus à être formé parce que pour répondre à la demande, c'est parti depuis le 6 octobre la campagne et c'est parti vraiment très fort.
Et d'autant plus que cette année, la loi prévoit que de nouvelles personnes comme les femmes enceintes pourront aller se faire vacciner gratuitement en pharmacie.
Le reportage de Xavier Ponroy pour Radio Campus Grenoble.
Les carburants des stations-service changent de nom à partir d'aujourd'hui.
Parmi les modifications, le samplon 95 devient E5, le gasoil portera le nom de B7, c'est une harmonisation voulue par l'Europe, mais pas de panique pour les automobilistes, le changement à la pompe sera de façon progressive. Les juges aggravent la mise en examen de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National était convoquée ce matin par les juges dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif au Parlement européen. Elle est désormais accusée de détournement de fonds publics, elle risque 10 ans de prison. Le Parti socialiste quitte son siège historique de Solferino à Paris. Un déménagement pour renflouer les caisses après les dernières déroutes aux élections. Le PS emménagera à Ivry-sur-Seine fin novembre. L'heure est à la décrue dans le Var. Mercredi, la ville de Sainte-Maxime a été frappée par d'importantes inondations. Elles ont fait 2 morts. Les secours sur place sont toujours à la recherche d'autres disparus. L'ordre des médecins est mu par les propos du pape François. Il a comparé cette semaine l'avortement à un recours à un tueur à gages. Andrew Musterman est journaliste spécialiste du Vatican et théologien à l'université hollandaise de Tilburg. Il nous décrypte cette déclaration polémique.
passe par là, il a la particularité d'utiliser beaucoup de métaphores, d'analogies. Cette métaphore a été tirée hors du contexte aussi, en même temps par tous les médias qui, bien sûr, sautent dessus. Le contexte, c'est que le pape donnait une catéchèse sur les 10 commandements. Un de ces commandements, tu ne tueras pas. Voilà. C'est dans ce contexte-là que le pape est aussi appelé au respect de la vie du début à la fin. Et je crois qu'il faut souligner aussi que ce respect de la vie à la fin l'a amené récemment à interdire dans le catéchisme même la peine de mort. Donc ce pape-là, il est allé très fort dans ce domaine-là, mais il dit aussi que si on va jusqu'à la fin de la vie, il faut aussi commencer par le début de la vie. C'est vraiment un pape qui est en quelque sorte très progressiste, parce que l'avortement n'est pas pour lui une sorte d'interdiction, mais une question du respect de la vie et de toute vie. Et voilà, c'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut le comprendre.
Andrew Mustaman au micro de Rudy Pupin, et cette comparaison est intervenue alors que l'Argentine, pays d'origine du pape François, est en plein débat sur l'IVG.
Les cabines de bronzage vont-elles bientôt disparaître ?
L'Agence de sécurité sanitaire a demandé cette semaine leur fermeture au pouvoir public devant le risque avéré de cancer face à l'exposition aux UV artificiels, mais à Grenoble on a déjà pris conscience du problème, Julien Penaud a poussé la porte d'un institut.
Vous pouvez y aller mademoiselle.
Un siège en plastique imposant face à une machine UV bardée de néon. Depuis 8 ans, Christelle vient dans cet institut pour un bronzage du visage. La publication du rapport ne l'a pas du tout bouleversée.
C'est dangereux comme plein d'autres choses. Hein. Le tabac, même le soleil naturel, ça reste dangereux. Je prends le risque, on verra bien. Ça me fait du bien. Sincèrement, au niveau moral, après au niveau teint, ça fait un teint allé, c'est joli.
Pourtant, toute personne soumise au rayon UV a 15% de risque en plus de développer un cancer de la peau. De quoi faire réfléchir Charlotte.
Souvent, on dit que c'est qu'on peut être malade, qu'on peut avoir des cancers.
Après, c'est un cercle vicieux. J'en fais même trop par rapport à ce qu'il faudrait. Entre une à deux fois par semaine. Et normalement, je crois que c'est que 10 séances par an.
Et face à l'addiction de certains de ses clients, Justine, gérante de l'institut, a décidé de fermer sa dernière cabine de bronzage.
Ça fait des années que j'en entends parler et j'avais pas envie d'avoir ça sur la conscience. J'ai des personnes qui viennent plus souvent que d'autres, deux, trois fois dans la semaine. Les 2-3 fois dans la semaine, c'est parce que je l'ai freiné. Il faut espacer déjà de 48 heures. Si vous voulez venir le lendemain, non, je refusais.
Pour compenser cette fermeture, l'Institut proposera bientôt un spray auto-bronzant.
Le reportage de Julien Penaud pour Radio Campus Grenoble. Moscou demande le départ de l'aide internationale en Syrie. Les Russes suspectent les organisations humanitaires occidentales d'aider les terroristes dans la région d'Idleb en Syrie. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont réagi à ces accusations en parlant d'informations mensongères. Donald Trump veut une enquête dans l'affaire Khashoggi en Arabie Saoudite. Le président américain maintient la pression sur le prince Mohamed Ben Salman après la disparition de ce journaliste critique du pouvoir à Riyad. Jamal Khashoggi n'a plus donné signe de vie depuis son entrée au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier. Kylian Mbappé a sauvé l'équipe de France de football hier soir face à l'Islande. Score final 2-2. L'attaquant est à l'origine des 2 buts tricolores en fin de rencontre. Il fait partie des 7 joueurs français nommés pour le Ballon d'Or. La liste a été dévoilée cette semaine, verdict lundi 3 décembre. C'est l'une des locomotives de la cuisine française. Il était cette semaine en gare de Grenoble. Le vainqueur de Top Chef, Jérémy Izerne, a participé à l'opération Chef de gare pour le plus grand plaisir des voyageurs. Le reportage de Luc Chemla.
Alors en avant, laisse sortir le matos.
Allez, c'est parti.
On est avec Jérémy Izard, en train de cuisiner un pâté.
Ah bon ? Bah, les gens ont envie justement de se laisser emmener là, voilà, ils ont 10-15 minutes à perdre, ils ont envie de se laisser emmener dans une parenthèse, on va dire, qu'ils n'auraient pas eu, ils attendent le train. C'est vrai que là, il y a une interaction différente.
Si vous voulez venir faire une photo, voilà, ça peut aider pour le dressage à la maison.
Et moi, en tant que cuisinier, c'est ça qui est génial, c'est ce côté interaction et ce côté comment vous avez fait ci et comment vous avez fait ça et pourquoi.
Vous avez goûté ? C'est vraiment bon.
Et voilà, et moi, c'est vraiment cette passation de savoir, moi, ça m'intéresse beaucoup.
Donc voilà, on a vraiment le romarin, le pied, tout, il y a vraiment du goût dans l'intégralité du produit.
C'est sympa, oui, ça fait une animation dans la gare, ça permet de voir autre chose, connaître des recettes, je trouve ça très intéressant.
Au moins on voit comment ils travaillent, c'est vrai que moi j'ai jamais mangé dans les restaurants comme ça, donc au moins ça permet de goûter.
On vous laisse goûter cette petite truite du Vercors au raisin.
Je mange pas de poisson, donc j'ai quand même goûté sa truite.
Et c'était bon ?
Ouais, mais c'est bon. Hein.
Mission accomplie alors.
Oui, mais très bien, on n'a pas l'habitude de faire une cuisine comme ça chez nous.
Un reportage plein de saveurs signé Luc Chemla.
C'était le journal d'Alexandre Lepère, merci beaucoup. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
Il est 16h40 sur Radio Campus Grenoble. Dans un instant, notre débat consacré, je vous le rappelle, à la PMA. Mais juste avant cela, un peu de musique, le temps d'installer nos invités dans le studio. Say, don't you ever let it go. C'était Like Boys du groupe français Hyphen Hyphen. Il sera d'ailleurs en concert à Grenoble le 8 décembre à la Belle Électrique. 16h43 sur Radio Campus Grenoble, place au débat.
Le dossier.
J'accueille dans ce studio Aurélia Valarier et Léo Corcos. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Le sujet du dossier aujourd'hui, c'est la PMA.
Oui, et pour en discuter, nous sommes avec Philippe Palliard. Bonjour.
Bonjour.
Donc, vous êtes conseiller national Les Républicains et vous avez repris depuis peu la délégation du mouvement Sens commun Isère.
Tout à fait.
En face de vous, Camille Galliard-Minier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes suppléante d'Olivier Véran, député de l'Isère sous l'étiquette La République en marche. Donc, merci tout d'abord à tous les deux d'être venus aujourd'hui à Radio Campus. Nous allons parler donc de la révision de la loi bioéthique qui permettrait l'extension de la PMA, qui est la procréation médicalement assistée. Et cette extension serait dédiée aux femmes célibataires et aux couples lesbiens. C'était en tout cas une promesse d'Emmanuel Macron. Et la proposition de loi devrait être discutée en début d'année prochaine, Léo.
Oui, Aurélie, en attendant, le sujet divise. Hier, 90 femmes qui ont eu recours à la PMA ont signé une tribune intitulée « Ne vous inquiétez pas pour nos enfants ». Elles disent en avoir assez d'entendre que leurs enfants seront malheureux avec elle. Alors Philippe Palliard, vous êtes à la tête du mouvement Sens commun en Isère, comme l'a dit Aurélia, vous êtes plutôt défavorable à la PMA. Ce ras-le-bol des femmes, est-ce que ça ne vous touche pas ?
Alors moi, ça me touche évidemment, et ça me touche qu'il y ait des femmes qui puissent exprimer un désir d'enfant, et il est très bon. Nous, on est opposé à la PMA, c'est pas du tout pour ces questions-là, on est opposé à la PMA, à cette extension de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules, parce qu'il y a énormément de problèmes éthiques qui sont soulevés par cette question. Alors, il y en a beaucoup, on ne va pas tous pouvoir les lister. Moi, je voudrais vous en parler de trois, par exemple. Le premier, pour moi, c'est qu'on instaure par la loi le fait que vous allez créer des enfants sans père. Et moi, je trouve ça juste admirable. Aujourd'hui, on est dans une société où on demande aux papas de s'impliquer de plus en plus dans l'éducation de leurs enfants, et je trouve ça formidable. Enfin, je suis jeune papa d'une petite fille de 7 mois, qui doit sortir de la sieste, d'ailleurs, donc je l'embrasse et j'embrasse sa maman. Voilà, je suis tellement heureux de m'occuper de cette petite fille. Enfin, je suis tellement heureux de voir ce que j'apporte de complémentaire aussi avec ma femme à cette petite fille. Et je suis très heureux. Et Marlène Schiappa, la ministre des Droits des Femmes, elle se plaignait encore il y a peu de temps de ne pas avoir assez de papas aux réunions parents-profs à l'école. Et là, en fait, on est en train de nous sortir un projet de loi où on est dit, en fait, stop, arrêtez tout. Finalement, les papas, vous servez à rien. Les enfants peuvent très bien se passer de vous. Et moi, ça me choque, sincèrement.
Je ne pense pas que ce soit le fait qu'on puisse passer de pair, c'est juste que ces femmes ont eu recours à la PMA et je pense qu'elles en ont assez, qu'on leur dise que leurs enfants ne seront pas heureux dans ce cadre-là.
Bien sûr, mais là, vous comprenez bien qu'on est dans une situation où, avec ce projet d'extension de la PMA, on va créer de fait des enfants qui vont être privés de pair. Donc, vous voyez, la question, ce n'est pas ça. La question, ce n'est pas « je ne reconnais pas le fait que les enfants sont heureux ou pas avec ces couples ». Évidemment. La question, c'est qu'on crée des situations qui sont des situations particulières. Et est-ce que c'est souhaitable pour notre société ? Personnellement, je ne pense pas.
Sur cet argument, je pense que je vais répondre tout de suite avant d'entendre les deux autres. Je crois que là, vous interprétez ce projet de loi qui doit intervenir dans les prochains mois comme étant une attaque contre les pères, ce qui n'est absolument pas le fond de cette loi. Le fond de cette loi, c'est essayer effectivement que deux personnes, deux femmes qui souhaitent avoir un enfant puissent en avoir un. Et quand je dis là, ça, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a déjà une situation aujourd'hui avec l'adoption qui permet à deux femmes d'exercer une fonction parentale auprès d'un enfant, puisqu'à ce moment-là, la personne aujourd'hui, la femme, peut tout à fait accoucher et l'enfant est adopté par l'autre mère. Donc on a déjà aujourd'hui des familles avec deux mères.
Mais on n'est pas dans une situation où aujourd'hui, de fait par la loi, on crée ces enfants sans père. La question de l'adoption d'un enfant qui a été fait avec, qui avait un père, je veux dire, c'est pas pareil. On va pas enlever cette souffrance. On parlait de souffrance des enfants, s'il y en avait ou pas. Moi, je suis persuadé que là, on va jamais enlever la souffrance d'un enfant de pas savoir qui est son père et de pas savoir quelles sont ses origines.
Là, vous revenez à la base de la procréation médicalement assistée lorsqu'on passe avec un donneur où le donneur est anonyme. Et le père, après, c'est une fonction parentale qui peut être utilisée. On sait aussi que le père, la fonction n'est pas forcément sexuée. Dans le couple parental, vous pouvez avoir une autre mère ou un autre père. L'important, c'est d'avoir des personnes qui aiment l'enfant et qui l'éduquent. D'ailleurs, c'est le sens de la vidéo qui a été jointe à l'annonce que vous avez faite tout à l'heure, où on voit que le deuxième parent est caché derrière le film, et on découvre à la fin que c'est une mère. Mais finalement, on se rend bien compte que pour gronder un enfant, l'éduquer, l'emmener à l'école, etc., eh bien, cette fonction, elle peut être tout à fait occupée par une femme ou un homme, finalement, peu importe, dès lors qu'il y a l'amour et l'envie d'éduquer un enfant.
Alors, justement, avant de continuer, on a, à propos de la place, justement, de l'enfant et de sa souffrance, on va écouter Raphaël Nogier. Il est médecin, président de l'association Cosette et Gavroche, qui est aussi proche de la Manif pour tous. Il a lancé en juin un manifeste qui a été signé par plus de 1700 médecins contre la PMA. On l'écoute.
J'ai reçu une centaine de lettres de confrères de toutes catégories, des gynécos, des pédiatres, des psychiatres. Il y a beaucoup de médecins qui sont opposés, et je crois qu'ils sont opposés surtout pour le problème de l'enfant. Mais en aucun cas, un enfant doit être un remède à une souffrance.
Et donc justement, Camille Galliard-Migné, la place de l'enfant dans tout ça?
L'enfant, ce qu'il faut, c'est qu'il soit dans une famille, qu'il soit aimé, qu'il soit éduqué. Le fait qu'il soit éduqué par deux femmes, comme ça ressort très bien d'ailleurs du manifeste qui est sorti aujourd'hui, n'est absolument pas une condition. Il y a des études qui ont été faites sur ces enfants qui sont dans des familles avec des personnes homosexuelles et des personnes lesbiennes, qui montrent que ces enfants n'y vont ni mieux ni moins bien que les autres enfants.
Et ces études ne sont absolument pas validées par la communauté scientifique, parce que vous savez très bien que pour réaliser ces études, il faut des tests qui sont randomisés en double aveugle, et vous savez très bien que c'est impossible de le faire. Donc vous êtes aujourd'hui incapable de dire que ces enfants sont plus heureux que d'autres. Et vous êtes incapable de dire qu'ils sont aussi heureux. Les études que vous mentionnez n'ont aucune pertinence scientifique.
Ces études, elles ont été faites de façon parfaitement sérieuse. Et aujourd'hui, des enfants ont déjà été entendus par des parlementaires ou dans le cadre du comité d'éthique. Et ils vous disent qu'ils sont parfaitement heureux dans leur famille avec deux mères. Et lorsqu'ils commencent effectivement à être moins heureux, c'est lorsque les autres commencent à leur renvoyer une situation qui pour eux ne posait absolument aucun problème.
Alors pourquoi est-ce qu'un enfant issu de PMA ne serait pas membre d'une famille, comme le demandent les signataire de la tribune selon vous, Philippe Alliard?
Un enfant, pourquoi un enfant, est-ce qu'un... un enfant issu de PMA, il serait tout à fait membre d'une famille. Je veux dire que c'est pas la question. Moi, je pense que dans la globalité, je parle pas de cas particuliers, quoi. Je parle d'un modèle de société. Je parle de éthiquement, est-ce que ce modèle de société, on le souhaite ou non? Je parlais des trois points qu'il fallait mentionner. On sait qu'il y a un point très important, c'est que par revendication d'égalité, on sait que si on autorise des couples de femmes à avoir des enfants, il va falloir forcément autoriser aux couples d'hommes et aux hommes seuls. Ce serait complètement injuste de leur en priver. On est dans l'égalité homme-femme aujourd'hui.
Mais
on va leur autoriser d'avoir des enfants.
Là, ça serait la GPA, par contre.
Et donc, ce serait la GPA.
Mais ça, évidemment, normalement, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour.
Oui, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on dirait que le désir des femmes à avoir un enfant est supérieur au désir des hommes à avoir un enfant? Vous le savez très bien.
Mais c'est un autre débat. Là, c'est la GPA.
Oui, mais ça en découle naturellement. Et justement, on parlait de modèle de société. Vu que ça en découle naturellement, moi je suis contre une société où on utilise des mères porteuses parce qu'on est dans la commercialisation du corps des femmes, dans la commercialisation des enfants. Et c'est une porte ouverte à ces techniques-là.
Camille Galliard-Migné, je vous vois.
Mais Olivier Véran serait à ma place, il vous dirait « et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas la GPA?
D'accord, donc aujourd'hui, vous voulez retomber,
aujourd'hui, le Comité national d'éthique, effectivement, fait une différence. Vous parlez d'éthique depuis tout à l'heure. Sachez quand même que le Comité national d'éthique, dont on peut considérer qu'il est compétent, est parfaitement favorable à la PMA. Il l'a dit lors d'un premier avis qu'il a rendu en mois de juin. Il vient de le répéter une nouvelle fois de façon parfaitement claire au mois d'octobre. Et concernant la GPA, effectivement, le Comité national d'éthique a certaines réserves, puisque la méthode serait très différente, puisqu'on passe par une mère porteuse et que ça peut emporter des violences à la fois morales, etc.
Ça génère énormément de dérives, et vous le savez.
Mais Olivier Véran viendrait vous dire une fois encore que pourquoi pas, parce qu'il y a des études, alors sauf à considérer que tout le monde ment, mais en tout cas il y a des études qui viennent montrer que dans les pays où c'est ouvert, eh bien, on n'est pas forcément dans le cas du marchandisation parce que ça peut être gratuit. On se rend compte que les mères porteuses...
C'est jamais gratuit.
On se rend compte que les mères porteuses, il y a moins d'1% de cas où les mères viennent revendiquer un droit sur l'enfant et que ça peut parfaitement bien se passer. Donc là, mais je ressens le débat parce qu'effectivement, le projet de loi, et pas la proposition, mais effectivement bien un projet de loi qui est apporté par le gouvernement, viendra au début de l'année 2019. C'est une promesse de campagne du candidat qui est devenu président Emmanuel Macron. Et ce cadre-là, aujourd'hui, ne s'étendra pas à la GPA. Et d'y dire
qu'il y a vous ouvrez une porte.
En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a bien compris que vous aviez des divergences à ce sujet, mais on va essayer de passer à un autre sujet maintenant. Donc si la loi venait à être adoptée, cela soulèverait d'autres questions, Léo.
Oui, et sur ce scénario dans lequel la loi serait en effet adoptée, donc on a interrogé Virginie Rio, elle est la coprésidente de l'association collective BAMP, l'association de patients de l'assistance médicale à la procréation et de personnes infertiles. Elle a signé la tribune qui a été publiée hier par France Info, on l'écoute.
PMA, c'est un sujet tabou encore aujourd'hui, mais alors être une femme seule qui peut-être va envisager de faire une PMA, c'est encore plus tabou, et donc elle ne voulait pas témoigner. Il faut protéger les gens contre les violences symboliques réelles qui existent. Peut-être que la loi va passer, mais après, en pratique, ça va être autre chose, et il va falloir vraiment... Il y a un gros travail de terrain qui va devoir être réalisé parce que ça va être compliqué pour certains médecins, certains gynécologues et voilà.
Camille Galliard-Migné, est-ce que ces inquiétudes sont justifiées ?
Je ne suis absolument pas inquiète. La loi est la loi. La loi s'appliquera sur tout le territoire, comme toutes les lois de la République. Et si des médecins ne veulent pas évoquer une clause de conscience, et bien à ce moment-là, d'autres médecins, et bien permettront à cette loi de s'appliquer. Je n'ai absolument aucune inquiétude.
Et il est très intéressant ce sujet, pardon, je rebondis, parce qu'il y a des centaines de médecins qui ont réagi aujourd'hui en disant qu'ils étaient opposés à ce projet de loi.
Une centaine sur des milliers de médecins.
Des centaines de médecins, c'est quand même significatif, qui ont expliqué que ça contrevenait à leur serment d'Hippocrate quand même, parce qu'ils disaient que la médecine aujourd'hui est là pour soigner des malades. Sauf que ces personnes-là ne sont pas malades. On utilise cette technique pour assouvir leur désir d'enfant et qui n'est plus là pour soigner une maladie. Mais donc on compromet complètement l'idée originale de la médecine.
La procréation médicalement assistée ne vient pas soigner, c'est un palliatif. La personne qui a un problème de fertilité, elle ne devient pas fertile avec la PMA. Elle peut avoir un enfant. Donc là déjà, le rôle de la médecine n'est pas un rôle curatif, mais un rôle, on va dire, palliatif.
Il faut sensibiliser les Français à tout cela. Justement, dès que la loi sera, si la loi est adoptée, il faudra vraiment faire un travail de sensibilisation auprès des Français.
Mais les Français sont déjà parfaitement prêts, plusieurs, alors pareil. Parce que peut-être que tout le monde ment, mais on a des instituts de sondage en France qui me paraissent sérieux et qui montrent que la société française est parfaitement prête, et on est à plus de 60 ou 65% de gens qui sont parfaitement pour la PMA. On n'est pas dans un débat où on enlève des droits à certaines personnes, on est dans un débat où on essaye d'en accorder pour qu'on ait une société qui aujourd'hui soit plus à l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Ces familles existent, ces familles sont dans le territoire, les enfants vivent dans ces familles, et il s'agit que ces situations qui sont aujourd'hui pas reconnues le soient enfin par notre société et rejoignent l'ensemble des pays européens qui le reconnaissent déjà.
Et alors, vous parliez de la GPA, par exemple, et vous disiez pourquoi pas. Si vous ouvrez la GPA, vous allez créer tout un tas de dérives, vous le savez, et demain vous reviendrez me voir en me disant « Ah ben en fait, ces dérives-là existent, il y a ces situations qui existent, donc maintenant il faut légaliser. » Et c'est comme ça qu'in fine, je ne le dis pas aujourd'hui, mais c'est comme ça qu'in fine, vous allez organiser le marché de la procréation en France. Un marché où vous allez acheter des bébés sur étagère, quoi.
Apocalyptique de cette situation, vous transformez et vous dramatisez une situation
allez,
qui n'est
allez voir en
pas.
Inde, au Kenya, les femmes sont enchaînées à des lits pour faire de la GPA.
Vous prenez des images qui sont parfaitement déplacées.
Allez sur mèreporteuse.info, vous avez une offre éco, une offre standard, une offre VIP avec des tarifs différents.
Mais
et
avec
vous
des
pouvez
arguments,
sélectionner...
on n'est pas parfaitement caricatural, pouvez... on oublie l'objet du débat qui est uniquement d'ouvrir la procréation.
Tous les
auditeurs
à y aller, s'ils veulent aller sur mèreporteuse.info pour voir ce qui est promis aujourd'hui par ce projet de loi et par ses extensions probables, qu'ils y aillent et qu'ils voient ce que c'est que la réalité de ce marché.
Ils peuvent aussi aller écouter ce manifeste et voir la vidéo et voir que des familles avec un enfant et deux femmes, ça fonctionne parfaitement bien.
Vous avez des divergences qui vont probablement être irréconciliables pendant un certain temps.
Bon, en tout cas, c'est l'heure de clôturer ce débat. Mais en tout cas, merci à vous deux d'avoir participé à cette émission. Donc, pour rappel, nous étions avec Philippe Palliard, conseiller Les Républicains et responsable du mouvement Sens Commun Isère, ainsi que Camille Galliard-Migné, suppléante d'Olivier Véran, député LREM en Isère.
Merci à tous les deux.
Microcité jusqu'à 17h.
Merci Aurélia, merci Léo pour ce débat. Il est 16h56 sur Radio Campus Grenoble. Vous êtes toujours dans l'émission Microcité. Et là, j'ai envie de vous dire d'aller vous faire rhabiller par une machine, celle de la start-up grenobloise Vertus, qui est exposée depuis 2 semaines au centre commercial Grand Place. Elle choisit les vêtements à votre place. Reportage de Rudy Pupin sur place.
Vérifiez que la porte du studio est fermée. Nous allons maintenant déterminer votre silhouette.
Il faut seulement 3 secondes à la cabine Vertus pour analyser une morphologie. Jean-Marie Caoudal est à l'origine de ce concept novateur.
Notre studio de mesure fonctionne par infrarouge. Les gens entrent dans notre espace, on prend leur silhouette. Ensuite, ils sortent de notre cabine, ils reçoivent leur application sur leur smartphone.
Votre profil Vertus est prêt.
Donc voilà, on te dit quelques éléments. T'as un X, même ça c'est pas mal parce que les X peuvent tous se permettre, hein. C'est vraiment c'est la classe.
L'application sélectionne des habits adaptés à la silhouette de chacun. Ces vêtements sont directement disponibles dans les magasins du centre.
D'accord. Notre modèle, c'est vraiment ce qu'on appelle du drive to store. Nous, on est là pour aider les personnes à s'habiller et à acheter dans les boutiques du centre commercial. C'est vous, Christelle, qui commencez ?
Et les clients se prêtent au jeu. Quand Christelle sort de la cabine, elle est plutôt satisfaite.
Je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment un personal shopper pour toutes les utilisateurs et utilisatrices de cette appli. Je prends les meilleures pièces, celles que je préfère, et je vais aller voir en magasin ce qu'elles rendent sur moi.
Christelle n'attend pas, elle va tout de suite essayer une jupe proposée par l'application. Donc verdict ?
Verdict, le vêtement est parfaitement à ma taille. Ça correspond à mon profil.
Elle est bien celle-ci aussi, au niveau du...
Elle est plus ajustée, voilà, elle est légèrement plus ajustée. Ouais, mais...
Pas question en revanche de se passer des vendeurs. Julie, conseillère, ne voit pas en Virtus une menace pour son métier.
C'est vraiment un complément. Ça remplacera jamais le conseil d'une vendeuse. Ça vous permet de voir votre morphologie, quel produit va être adapté à vous. La vendeuse, c'est elle vraiment qui va vous aider à continuer en fait votre look.
Ça, c'est du L. Ouais, je pense que sur du L, ça devrait être très bien au niveau de la taille.
Et là, on est
sur
la start-up espère fait. Maintenant implanter sa cabine dans les grands centres commerciaux français.
À bientôt, bonne journée. Au revoir.
Et vous avez jusqu'à demain, si le cœur vous en dit, pour tester la machine. Merci à Rudy Pupin pour ce grand format. (Rire) 16h58 sur Radio Campus Grenoble. Il est bientôt l'heure de se quitter, mais juste avant, le rappel des titres avec Alexandre Lepère.
Un nouveau leader pour la francophonie, il s'agit de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, soutenue par la France et Emmanuel Macron. Le sommet de la francophonie s'achève ce soir en Arménie. Les carburants à la pompe changent de nom et de présentation à partir d'aujourd'hui. Le samplon 95 portera notamment le nom E5, le gasoil, le B7. Les juges ont aggravé la mise en examen de Marine Le Pen en détournement de fonds publics. La présidente du Rassemblement National a été entendue aujourd'hui par les juges. Elle est inculpée avec son parti dans l'affaire des assistants parlementaires européens.
Microcité.
Microcité, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès vendredi prochain à 16h30 pour une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous réécouter en podcast sur le site campusgrenoble.org et pour suivre notre actualité, rendez-vous sur Facebook et Twitter @microcité. Merci à tous de nous avoir suivis. Passez un bon week-end à l'écoute de Radio Campus 90.8. À la semaine prochaine.